Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut et de ce qui est sur la terre en bas et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la troisième et sur la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre, que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Et tout le peuple aperçut les tonnerres et les flammes, et le son de la trompette et la montagne fumante. Et le peuple vit cela. Et ils tremblèrent, et se tinrent loin, et dirent à Moïse, « Toi, parle avec nous, et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. » Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, car c'est afin de vous éprouver que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit devant vos yeux, pour que vous ne péchiez point. » Et le peuple se tint loin. Et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu était. Et l'Éternel dit à Moïse, « Tu diras ainsi aux fils d'Israël, vous avez vu que j'ai parlé avec vous des cieux. Vous ne ferez point de dieu d'argent à côté de moi, et vous ne vous ferez pas des dieux d'or. Tu me feras un autel de terre et tu sacrifieras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de prospérité, ton menu et ton gros bétail. En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Et si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras point de pierre taillée, car si tu lèves ton ciseau dessus, tu le profaneras. Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Un verset encore dans le passage, dans Deutéronome, chapitre 5. Verset 22. L'Éternel prononça ces paroles à toute votre congrégation sur la montagne, du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité profonde, avec une voix forte, et il n'ajouta rien. Et il les écrivit sur deux tables de pierre et me les donna. Et il arriva que lorsque vous entendîtes que la voix du milieu des ténèbres, la montagne étant brûlante de feu, vous vous approchâtes de moi, tous les chefs de vos tribus et vos anciens, et vous dites, « Voici l'Éternel, notre Dieu, nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu parle avec l'homme et que l'homme vit. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous ? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous entendons encore la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Car qui de toute chair a entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu et demeurant en vie ? Toi, approche et écoute ce que te dira, tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Et toi, tu nous diras tout ce que l'Éternel, notre Dieu, t'aura dit. Et nous l'écouterons et nous le pratiquerons. Et l'Éternel entendit la voix de vos paroles lorsque vous me parliez. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu la voix des paroles de ce peuple, qu'ils t'ont dit. Tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont bien dit. Oh, s'ils avaient toujours ce cœur-là pour me craindre et pour garder tous mes commandements afin de prospérer, eux et leurs fils à toujours. La loi est bonne. Et qui pourrait dire, en lisant ces commandements de Dieu, que la loi n'est pas bonne, qu'elle ne demande pas des choses bonnes. Et cependant, cette loi qui est bonne, elle est un ministère de mort et de condamnation. Et nous ne saurions assez rendre grâce à Dieu de ce que nous avons été délivrés des exigences de la loi. Bien que notre tendance continuelle, une tendance à laquelle il faut que nous veillons, soit de manifester un esprit légal, comme le peuple autrefois, nous aurions bien vite fait de chercher à mériter quelque chose. Et il nous est bien difficile de faire quelque chose, surtout quand c'est quelque chose qui est selon même la pensée de Dieu, dans la crainte, dans l'obéissance. Il nous est bien difficile qu'il ne s'y glisse pas une pensée qu'en faisant cela, nous avons acquis quelques mérites et quelques droits à la faveur de Dieu. Eh bien, nous n'avons jamais droit à rien. ce que nous pouvons faire et qui a l'approbation de Dieu, c'est ce que sa grâce de Dieu a fait pour nous. On a dit que le remède a cet esprit légal. Dont nous voyons tant de témoignages dans la chrétienté mère, déjà par lesquelles, si on ne veut, si même on n'y met pas une pensée de justification, on y met quand même une pensée qui élève et qui nous élève et devant les autres, et même devant Dieu. On a dit que le remède à cet esprit légal, c'est la grâce. Et c'est bien vrai. Eh bien, je pense qu'il y a aussi un autre remède à cet esprit légal, c'est de nous placer en face de la loi, de ces commandements de Dieu. Non pas que nous ayons là, que Dieu soit tout dans ses commandements. Ces commandements ont été donnés par Dieu pour l'homme, et pour que l'homme en use, l'use légitimement. Eh bien, il n'y a sans doute rien de plus nécessaire, comme on nous l'a dit, de nous placer devant la loi. Non pas pour que cela nous entraîne et nous engage à faire des œuvres de loi, mais que placer devant la loi, elle produise dans nos cœurs tout ce qu'elle peut produire. Dans ces commandements de la loi, tous ces commandements de la loi sont en effet bien propres à nous rappeler ce que nous sommes. Et c'est nécessaire parce que nous avons toujours tendance à l'oublier. Ces commandements de la loi nous rappellent ce que nous sommes parce que ce soit des commandements positifs, comme il y en a, ou des commandements négatifs, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, par ses commandements même, sont de nos cœurs, et si nous laissons cette parole entrer dans nos cœurs, eh bien, cela nous humilie. Parce que les commandements positifs que nous y trouvons, ils nous disent ce que nous devrions faire, et les choses qu'ils nous disent comme devant les faire, il ne devrait pas être nécessaire qu'elles nous soient dites. Un commandement positif, c'est par exemple, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. Il ne devrait pas être nécessaire qu'une loi nous dise d'aimer Dieu. Il n'est pas nécessaire qu'une loi dise à un enfant d'aimer sa mère. Il ne devrait pas être nécessaire que cet autre commandement si important et qui fait que cette loi, les enfants même doivent y prendre garde. Honore ton père et ta mère. Voilà un commandement qui ne devrait pas être nécessaire. Quand un enfant est dans un bon état, il n'est pas nécessaire qu'un commandement vienne lui dire d'aimer ses parents et de les honorer. Quand il ne le fait pas, eh bien, c'est le témoignage qu'il est dans un mauvais état, et c'est-à-dire, c'est une manifestation de cette nature pécheresse qui est la sienne. Les commandements négatifs sont tout aussi humiliants. Ils nous disent ce que nous ne devons pas faire. Mais si nous étions dans un bon état, et si nous n'étions pas des pécheurs, il ne serait pas nécessaire de nous défendre ces choses. Il ne serait pas nécessaire de nous dire de ne pas tuer, de ne pas dérober, de ne pas commettre adultère, de ne pas dire de faux témoignages. Si ces choses sont dites, eh bien, d'une façon puissante, bien qu'indirecte, c'est nous dire, voilà ce que tu es. Qu'il faille te dire de faire cela, parce que tu ne le ferais pas, de ne pas faire cela, parce que tu es capable de le faire. Et dans les tableaux que nous avons, que ce soit dans l'Épître aux Romains, le tableau de l'homme en général, que ce soit, comme nous l'avons vu récemment, dans la seconde Épître à Timothée, le tableau de l'homme religieux, de son cœur, c'est frappant de voir que ce que la loi défendait, c'est ce que le cœur de l'homme fait, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, l'un et l'autre. Honore ton père et ta mère, les enfants sont désobéissants à leurs parents. Je cite simplement ce cas pour les enfants et les jeunes gens qui sont là. Ainsi, ce ne peut pas sans profit que nous lisions les commandements de la loi. On n'aime pas bien le faire. Et nous comprenons que lorsque nous en avons été délivrés, ce ne soit pas un sujet réjouissant. Mais il a aussi son utilité. Il nous rappelle ce que nous sommes. Il nous rappelle ce que nous restons quant à notre vieille nature. Ce que nous sommes quant à la chair. Et comme nous comprenons qu'il soit dit que nulle chair ne peut être justifiée par des œuvres de loi. Et j'ai simplement à cœur de souligner ceci en lisant ces versets. Comment nos cœurs ne seraient-ils pas reconnaissants que Dieu nous ait donné autre chose que la loi? Que Dieu ne s'en soit pas tenu à la folie de ce peuple qui, sortant de la grâce qu'il avait conduit jusqu'en Sinaï, ait voulu étudier dans sa bouche et dans son cœur cette parole insensée, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Combien nous avons à être reconnaissants vers Dieu de ce qu'il nous est parlé d'une autre manière que de la manière que par la loi. Cette loi que Dieu donnait et dont il savait bien quel serait en définitive les résultats, ce qu'elle serait pour l'homme pécheur et incapable d'accomplir, cette loi, elle ne pouvait pas satisfaire Dieu. Parce que la loi que nous avons là n'est pas la révélation du cœur de Dieu. Elle est certainement une révélation de nos propres cœurs. Elle nous montre ce que nous sommes. Elle ne peut pas faire autre chose. La loi ne peut pas changer ce que je suis. Elle met en évidence ce que je suis comme homme pécheur, et elle ne fait pas autre chose. Et elle me laisse là. Mais cette évidence qu'elle fait ressortir, elle fait ressortir aussi l'évidence du jugement qui est sur moi. Ce sujet de la loi est extrêmement vaste. Il remplit bien des passages de l'Ancien et surtout du Nouveau Testament. Du Nouveau Testament parce qu'alors, il nous y est révélé une autre façon, un autre langage que Dieu nous a tenu. Dieu ne nous a pas parlé seulement et donné seulement les commandements de la loi. Parce que cette loi, elle nous tue. Mais la pensée de Dieu n'était pas de nous tuer. Elle n'était pas de nous condamner. Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu saint, la loi en témoigne, mais Dieu est un Dieu d'amour, et ce Dieu d'amour nous a parlé d'une autre manière. Il nous a parlé dans son Fils. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est quand le ministère de la loi a pleinement démontré, il le fallait, que par des œuvres de loi, nulle chair ne pouvait être justifiée, alors que la pensée de Dieu était de nous justifier, c'était le propos de Dieu, et Dieu ne pouvait pas renoncer à cela, Dieu ne pouvait pas renoncer à nous sauver et à nous justifier. Alors, Dieu nous a parlé d'une autre manière. Et on a remarqué bien des fois, derrière et immédiatement, dès que l'homme se montre tel qu'il est, un homme pécheur, Dieu se montre aussi tout de suite comme un Dieu saint. Mais pas seulement cela. Il montre qu'il y a part de vertu. Un dessein de grâce, un dessein d'amour, et que pour que ce dessein d'amour et de grâce soit réalisé, il a des ressources. Et ces ressources, il ne les trouve pas en nous, il ne les trouve pas dans l'homme. S'il y avait eu quelques ressources dans l'homme, c'était la loi à accomplir. Les ressources de Dieu pour nous sauver, pour nous justifier, elles ne sont pas dans l'homme, elles sont en lui. Et elles sont dans celui que Dieu avait auprès de lui. Celui par lequel la grâce pourrait être apportée, cette grâce qui apporte le salut, et elle pourrait être apportée dans la personne du Seigneur Jésus. On a déjà cette pensée de grâce de Dieu. Elle est manifestée dès que le péché est entré dans le monde. Sa justice se manifeste, il chasse l'homme des dettes, mais immédiatement sa grâce se montre en présentant le moyen par lequel l'homme éloigné de lui pourrait s'approcher de lui par un sacrifice en main. Ici, pense qu'il est frappant de voir que Dieu qui savait bien que cette loi qu'il donnait, l'homme ne pourrait pas l'accomplir à cause de la faiblesse de la chair. Si l'homme n'avait pas été pécheur, il l'aurait accompli. Mais elle n'aurait pas eu besoin de lui être donnée. Un homme qui n'était pas pécheur, on n'a rien à défendre. Un homme qui n'est pas pécheur, on n'a rien à commander. Adam, avant la chute, n'avait pas besoin d'une loi. Eh bien, dans les derniers versets de notre chapitre, nous voyons que Dieu sait bien que cette loi n'approchera pas l'homme de et il parle quand même de le bénir. Il peut dire, en tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Ce n'est pas que Dieu se soit fait des illusions sur la capacité de l'homme pour accomplir la loi. Mais c'est que Dieu ne renonce pas à ses dispositions qui étaient des dispositions éternelles manifestées au temps propre à l'égard de sa créature. Et il y a un moyen par lequel Dieu pourra bénir l'homme, et il dit, quand tu bâtiras, quand tu me feras un autel de pierre, de terre, tu sacrifieras dessus tes holocaustes, tes sacrifices de prospérité, ton menu et ton gros bétail en tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Ça peut, c'est bien frappant, ce contraste entre des commandements inflexibles, des commandements impossibles à observer pour la chair, et puis que Dieu, quand même, dans le même moment, il puisse dire, quand tu me bâtiras un autel, quand tu me feras un autel de terre, en tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. N'avons-nous pas là une préfiguration de la manière dont Dieu nous approcherait de lui et nous bénirait? Mais il y a comme une mise en garde contre ce qui est toujours dans le cœur de l'homme. Voilà l'homme qui n'a pas pu et qui ne peut pas, c'est impossible, avec la meilleure volonté du monde, quelque effort qu'il fasse, il n'y a pas un homme qui puisse accomplir la loi. Et en un sens, Dieu, ce n'est pas de cela que Dieu tient rigueur à l'homme. Ce n'est pas de cela. Il le sait bien qu'il ne peut pas accomplir la loi. Ce dont Dieu demandera compte à l'homme, c'est que, ayant parlé dans son Fils, et ayant par lui ouvert une voie de grâce, et de grâce pure, inconditionnelle, l'homme l'ait méprisé. Dieu ne nous reprochera pas d'avoir fait ce que la loi disait de ne pas faire, de n'avoir pas fait ce qu'elle disait de faire. Dieu nous tiendra compte à l'homme de ne pas avoir accepté cette grâce qui est apparue à tous les hommes. Mais s'approchons de Dieu sur un autre terrain, sur celui non pas de choses faites, des œuvres que nous ayons accomplies en justice, mais s'approchons de Dieu par un autre terrain, sur un autre terrain, par une autre voie, pour lui offrir ses holocaustes et ses sacrifices. Et bien encore, Dieu sait quelle est et quelle pourrait être la pensée de l'homme. Ce cœur incurable, l'homme qui cherche toujours à s'élever, à se glorifier, à mériter quelque chose. Alors, pour prévenir cette disposition du cœur de l'homme que Dieu connaît bien, il sait de quoi nous sommes formés. Il sonde les cœurs et les reins. Pour prévenir cette disposition, Dieu dit, et si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras point de pierre taillée. Non pas un autel dans lequel tu auras mis tes ressources, tu auras mis ton talent, tu auras mis quoi que ce soit de toi-même, tu ne bâtiras point de pierre taillée. Chers amis, nous avons le privilège de pouvoir nous approcher de Dieu. Nous avons été justifiés par la grâce, mais toujours, la seule ressource qui nous demeure, que ce soit pour la justification, que ce soit pour le service, que ce soit pour l'adoration même, la seule ressource, le terrain sur lequel il faut que nous demeurions toujours, c'est celui de la grâce. Venir et bâtir un autel de pierre taillée, c'est y apporter quelque chose de nous-mêmes. Ce n'est plus la pure grâce. Si tu lèves ton ciseau dessus, tu le profaneras. Et de même, comme Dieu sait bien ce que nous sommes, et il ajoute, et tu ne monteras point à mon autel par des degrés. La source initiale de la chute de l'homme, elle est au fond une pensée d'élévation. Et cette pensée d'élévation, c'est un sujet qui parcourt toutes les Écritures. Cette pensée d'élévation, elle peut se trouver même quand nous sommes réunis pour le culte. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés. Eh bien, ces quelques versets nous mettent en présence de ce que nous sommes. Et nous comprendrions très bien que quelqu'un, un inconverti, nous comprendrions très bien que la lecture de ces versets puisse être un motif de sa conversion. Qu'effrayé des exigences de la loi devant ce qu'il est, il est soif de la grâce et veuille que ce soit la part de quelqu'un ici qui peut-être serait étranger à cette gloire.